L'Hôtel des Morts, Henry James. Partie 2/3. Chapitre 4. Chaque année, le jour où il revenait du grand cimetière, il entrait à l'église ainsi qu'il avait fait le jour où cette idée lui était venue. Ce fut en cette occasion, après une année écoulée, qu'il remarqua que son hôtel était hanté par un adorateur au moins aussi assidu que lui-même. D'autres fidèles allaient et venaient, là, comme dans le reste de l'église, s'imposant parfois, tandis qu'ils disparaissaient, à une reconnaissance vague ou plus définie. Mais cette inlassable présence, il pouvait toujours la remarquer en arrivant, et elle était encore là quand il s'en allait. La première fois, il fut surpris de la promptitude avec laquelle elle assuma une identité à ses yeux. L'identité de la dame que, 2 ans auparavant, au jour anniversaire, il avait vue si profondément prosternée. Celle dont il avait aperçu la figure en une vision si fugitive. Étant donné le temps écoulé, le souvenir qu'il avait d'elle était assez net pour le surprendre. Sûrement, elle n'avait nulle impression de lui, ou plutôt n'en avait d'abord eu aucune. Le temps vint où sa manière d'accomplir les rites laissa supposer qu'elle avait peu à peu deviné que la dévotion de Stransom était du même ordre que la sienne. Elle utilisait son hôtel pour son intention personnelle. Il pouvait seulement espérer que, triste et solitaire comme elle semblait être, elle s'en servait pour ses morts à elle. Il y avait des interruptions, des infidélités, toutes de sa part à lui, en réponse à d'autres devoirs, d'autres obligations, mais au fur et à mesure que les mois passaient, chaque fois qu'il retournait à son hôtel, il retrouvait l'inconnu et finissait par prendre plaisir à l'idée qui lui avait procuré une satisfaction égale à la sienne. Si souvent il priait côte à côte que par moments Stransom souhaitait d'en avoir la certitude, tant il était clair pour eux la perspective de vieillir ensemble dans leur culte. Elle était plus jeune que lui, mais semblait avoir autant de morts, autant de cierges. D'elle n'émanait nulle fausse note, nulle note même de couleur ou de son, et Stransom avait aussi conclu en lui-même qu'elle n'avait pas de fortune. Toujours de noir vêtue, elle devait avoir eu une longue suite de chagrins. Après tout, les gens qui pouvaient subir tant de pertes n'étaient positivement pas pauvres. Ils étaient riches, puisqu'ils pouvaient renoncer à tant de choses. Mais l'air de fidélité et d'indifférence de cette femme, qui, en toute attitude de hasard, avait une beauté naturelle de ligne, laissait croire à Stransom qu'elle avait connu plus d'une sorte de chagrin. Il avait un profond amour de la musique, mais peu de temps pour en goûter la jouissance. De temps à autre, le samedi après-midi, quand l'agitation bruyante des jours de travail s'apaisait, il se souvenait de l'existence de certaines joies. Des amis les lui rappelaient, et il se retrouvait assis près d'eux à des concerts. Par une de ces journées d'hiver, à St. James Hall, une fois assis, il s'aperçut que la dame qu'il avait si souvent vue à l'église occupait la place à côté de la sienne et était évidemment seule, comme lui-même l'était cette fois par hasard. D'abord trop absorbée par la lecture du programme pour faire attention à son voisin, elle jeta enfin un coup d'œil vers lui. Il saisit l'occasion pour lui parler, entrant en matière par cette remarque qui lui semblait la connaître déjà. Elle sourit en disant « Oh oui, je vous reconnais ». Toutefois, bien qu'elle admît leur longue connaissance, c'était la première fois qu'il voyait son sourire, dont l'effet contribua à resserrer leur relation plus qu'aucune des précédentes rencontres. Il n'avait pas découvert qu'elle fût si jolie. plus tard, dans la soirée, tandis qu'il roulait dans Hansom allant dîner en ville, il ajouta qu'il n'avait pas admis qu'elle fût si intéressante. Le lendemain matin, au milieu de son travail, la pensée insolite lui vint soudain que, remontant à une date déjà si lointaine, l'impression qu'il avait d'elle était comme une rivière aux méandres sinueux qui avait enfin atteint la mer. Ce jour-là, le souvenir de ce qui s'était passé entre eux amena une sorte de confusion dans son travail. Ce n'était pas grand-chose en soi, mais de là venait le changement. Tous deux, ils avaient écouté Beethoven et Schumann. Ils avaient causé durant les entr'actes, et à la fin, quand tous les gens se pressaient vers les portes, il lui avait demandé s'il ne pouvait lui être de quelque utilité à la sortie. Elle l'avait remercié, puis, ouvrant son parapluie, s'était glissée dans la foule sans faire allusion à leur nouvelle rencontre, lui laissant la faculté de se souvenir que pas un mot n'avait été échangé au sujet de cette coïncidence. Ce silence le frappa d'abord comme une chose naturelle, puis comme une chose d'intention maligne. Elle n'eût pas dû permettre qu'il lui parlât, et pourtant, si elle ne lui avait pas permis, il l'eût jugé mal élevé. C'était assez étrange qu'étant donné que rien ne les avait jamais mis en contact, il eût pu émettre avec succès la prétention d'être en quelque sorte, elle et lui, de vieux amis. Son succès, il est vrai, avait été consacré par la brusque fuite de la femme. Il lui vint donc un désir absurde de le soumettre à une meilleure épreuve. Sauf l'attente de quelques pauvres chances qui pourraient l'aider, la seule épreuve possible était de la revoir à l'église. S'il avait été laissé à lui-même, Stransom aurait été à l'église le lendemain, par simple curiosité, pour voir s'il la trouverait là, mais après avoir résolu d'y aller, il constata qu'il n'était point libre. La force qui le retint lui fit connaître combien peu, en réalité, ses morts le laissaient à lui-même. Il n'allait à l'église que pour eux, et non pour lui ou à quelque autre intention. Cette force adverse le retint pendant 10 jours. Il lui était odieux d'associer sa chapelle à quoi que ce fût d'autre que ses offices, ou de laisser entrevoir la curiosité qui avait été sur le point de l'émouvoir. C'était absurde de compliquer une chose aussi simple que la pratique habituelle d'un culte qui fût aisément devenu journalier et même de toute heure. Pourtant, la complication était venue. Stransom se sentait fâché, déçu, comme si un long et heureux enchantement eût été rompu et qu'il eût perdu un sentiment familier de sécurité et de paix. À la fin, il se demanda cependant s'il devait s'écarter à jamais de son hôtel, par peur d'une confusion entre ses motifs et son intention. Il retourna à l'église après une période ni plus ni moins longue que d'habitude, avec la conviction très nette qu'il s'apercevrait à peine de la présence ou de l'absence de la dame du concert. Cette indifférence ne l'empêcha pas néanmoins de remarquer immédiatement que, pour la première fois depuis le jour où il l'avait aperçue, elle n'était point là. Il ne se fit plus scrupule alors de lui laisser le temps d'arriver. Mais elle ne vint pas. Et quand il s'en alla, regrettant encore son absence, il se sentit peiné et admit cette peine profane. Puisque l'absence de cette femme ne faisait qu'embrouiller le réseau des complications, c'était donc qu'il émanait d'elle. Elle seule en était la cause et le nœud. À la fin de l'année suivante, la situation était en effet très compliquée. Mais il s'en souciait fort peu à cette époque. Seule l'habitude qu'il avait de s'analyser lui avait donné ses scrupules. 3 fois en 3 mois, il avait été à l'église sans l'y trouver. Et il sentit que point ne lui avait été besoin de ses épreuves pour se convaincre lui-même que son incertitude s'était apaisée. Cependant, si étrange que cela pût sembler, un raffinement de délicatesse, et non pas l'indifférence, avait seul empêché Stransom de demander au sacristain s'il avait vu l'inconnu à d'autres heures. C'était d'ailleurs grâce à cette discrétion qu'il lui avait été loisible de se montrer au concert d'une amabilité si correcte, et qu'il lui fut possible, rencontrant enfin le regard de l'inconnu lors d'une quatrième épreuve, d'attendre qu'elle se levât pour s'en aller. Il la rejoignit aussitôt dans la rue et lui demanda s'il pouvait l'accompagner une partie de son chemin. Sur sa tacite autorisation, il l'escorta jusqu'à une maison du voisinage, où elle avait affaire. Elle lui apprit que ce n'était point là qu'elle vivait. Elle habitait, dit-elle, un simple taudis en compagnie d'une vieille tante. L'évocation de cette personne ramena l'entretien au chapitre des tâches lourdes et fastidieuses et des occupations journalières. Elle-même, cette nièce en grand deuil, n'était plus dans sa prime jeunesse, et son éclat de jadis lui avait laissé, en se fanant, un air qui constitua aux yeux de Strunsom la preuve que cette beauté avait été tragiquement sacrifiée. Quelque assertion qu'elle émit devant Strunsom, elle lui donnait sans aucune référence. Elle aurait pu être une duchesse divorcée. Elle aurait bien pu être une vieille fille donnant des leçons de harpe. Chapitre 5. Peu à peu, ils prirent l'habitude de se promener ensemble presque à chaque fois qu'ils se retrouvaient. Pendant longtemps encore, ils ne se rencontrèrent qu'à l'église. Ils ne pouvaient lui demander de venir la voir. Elle ne l'invita jamais, comme si elle n'eût pas un logis convenable pour le recevoir. Elle connaissait autant que lui la société londonienne, mais par délicatesse d'instinct, il fréquentait les quartiers ignorés des promeneurs mondains. Au retour, elle l'obligeait toujours à la quitter au même coin de rue. Comme prétexte à s'arrêter, elle regardait avec lui ces choses lamentables que l'on voit exposées aux vitrines des magasins de faubourg, et jamais il ne lui disait un mot qu'elle ne comprît magnifiquement. Pendant des mois, des années, Strunsom ignora son nom, et elle non plus ne prononça jamais le sien. Mais que lui importait leur nom ? Seul comptait, à leurs yeux, leur parfaite entente, leur communion d'intention et de culte. Cette communion intime maintenait leur relation sur un terrain si impersonnel qu'elles ne suivirent ni la marche ni les raisons qui régissent le cours des amitiés ordinaires. Ils restèrent indifférents à tous les détails supposés nécessaires aux relations mondaines. Un jour, sans qu'on sût jamais qui des deux l'exprima le premier, ils finirent par émettre l'idée qu'ils ne se souciaient aucunement l'un de l'autre. Sur cette constatation, leur intimité s'accrut. S'ils sentirent profondément ensemble certaines choses absolument distinctes ne constituaient pas un gage de sécurité, où trouver alors cette sauvegarde ? Parfois, en de rares occasions, si une circonstance venait à rendre plus chaude, plus intime l'atmosphère qui les enveloppait, ils se sentaient tout près d'appeler leur mort par leur nom, avec l'émotion grave et recueillie de croyants faisant allusion au mystère de leur foi. Ils se sentaient alors sur le point de livrer leur pensée tout entière. Le terme « eux » en disait assez. Il limitait l'allusion, il avait une dignité personnelle, et si vous aviez entendu nos amis s'en servir dans leur conversation, vous les auriez pu croire un couple païen de jadis, parlant avec respect de ces dieux lars. Ils ne surent jamais, du moins Strunsom ne sut jamais, comment ils avaient appris à être si sûrs l'un de l'autre. Si chacun d'eux s'était demandé pourquoi l'autre venait là, la certitude leur était venue d'elle-même, toutefois portant elle-même l'instinct de propagation. Et il était aussi naturel que beau qu'ils eussent aussitôt pris plaisir à s'imaginer rencontrer l'un dans l'autre un disciple. Que leur propagande n'eût entraîné qu'un seul disciple, cela était amplement suffisant. Sa dette à elle, toutefois, était bien supérieure à celle de Strunsom. Tandis qu'elle ne lui avait fourni qu'une adoratrice, il lui avait procuré un temple magnifique. Elle dit une fois avoir pitié de lui à cause de la longueur de sa liste. Elle avait compté ses cierges aussi souvent que lui, et sur ce, il se demanda de quelle importance pouvait être la sienne. Il s'était étonné auparavant de la coïncidence de leur perte, surtout quand, de temps en temps, un nouveau cierge s'allumait. Un accident l'amena une fois à exprimer cet étonnement, et comme surprise de ce qu'il n'eut pas encore compris, elle répondit « Oh, pour moi, vous savez, plus il y en a, mieux cela me convient. Ils ne seront jamais trop nombreux. J'aimerais qu'il y en eût des centaines et des centaines. J'aimerais qu'il y en eût des milliers. J'aimerais une colline de flammes. » Alors, en un éclair, il comprit. « Vos morts ne sont qu'un ?» Elle hésita plus que jamais, il ne l'avait vu hésiter. Puis, rougissant, comme s'il possédait maintenant le secret qu'elle gardait jalousement, elle répondit « Oui, un seulement. » Il sembla alors à Strandsom qu'il en savait encore moins long qu'auparavant, tant il lui était difficile de concevoir une vie où une unique expérience avait suffi pour effacer toutes les autres. Autour du vide qui en constituait le pivot central, sa vie à lui avait été assez remplie. Elle parut ensuite regretter sa confession, bien qu'au moment où elle avait parlé, il y eut de l'orgueil dans sa confusion même. Elle lui déclara que sa part à lui était la plus belle, la plus chère possession qu'on l'eût pu souhaiter, la part que l'on choisirait si choisir était possible. Elle l'assura qu'elle pouvait parfaitement imaginer quelques-uns des échos qui peuplaient les silences de sa vie. Il savait que c'était impossible. Les relations de chacun avec ceux qu'il a aimés ou haïs sont de caractères trop distincts pour être devinées par analogie, mais ceci n'altérait en rien le fait qu'ils vieillissaient ensemble dans leur culte commun. Elle était devenue un des traits de cette dévotion. Mais, même en pleine floraison de leur amitié, quand ils se rencontraient à un concert ou allaient ensemble à une exposition, ils ne l'associaient à aucune autre idée. Seulement, chez Strandsom, le culte devint exclusif et suprême. Un à un, ses amis s'en allèrent, si bien qu'il eut enfin plus de flammes emblématiques sur son autel que de seuls amis à franchir. Ayant une fois découvert une nouvelle étoile, selon leur expression, l'inconnu émit l'idée que la chapelle était enfin pleine. « Oh non !» répondit Strandsom. « Il s'en faut encore de beaucoup. Jamais la chapelle ne sera pleine avant que ne brille un cierge dont l'éclat fera pâlir celui de tous les autres. Ce sera le plus haut de tous. » Elle arrêta sur lui son regard calme et étonné. « De quel cierge voulez-vous parler ?»«
Je veux parler du mien, chère madame. »
Au bout d'un certain temps, il avait appris qu'elle gagnait quelque argent grâce à sa plume, écrivant sous un pseudonyme qu'elle ne lui livra jamais dans des revues qu'il ne vit jamais. Elle savait trop bien, et ce qu'il pouvait lire et ce qu'elle pouvait écrire, elle lui apprit à cultiver une indifférence qui contribua au bon état de leur relation. Cet invisible travail convenait à Strandsom, satisfaisait l'idée qu'il avait d'elle, de la dignité de sa vie fière et obscure, de son talent rémunérateur, de son humble et impénétrable logis. Seul, avec sa vieille tante, perdue dans le monde étroit et falot de son faubourg. Pour lui, elle revenait à la surface de temps à autre. Elle était la prêtresse de son hôtel et chaque fois qu'il quittait l'Angleterre, il la commettait à sa garde. Elle réveilla en lui cette opinion que les femmes ont plus d'esprit de religion que les hommes. Sa pauvre piété lui parut terne et pâle en comparaison. Il lui disait souvent qu'étant donné le peu de temps qu'il lui restait à vivre, il se réjouissait qu'il en restât tant à elle, heureux de penser qu'elle serait là, gardienne du temple quand l'heure de l'appel aurait sonné pour lui. Il avait élaboré un grand projet dont il lui fit part. Il s'agissait d'un legs d'argent pour subvenir à l'entretien de l'hôtel sans en diminuer le luxe. Il la nommerait gérante de cette fondation,
et si son inspiration l'y portait, elle pourrait même allumer un cierge pour lui. « Et qui en allumera jamais un pour moi ?» demanda-t-elle gravement. Chapitre 6. Elle était toujours en deuil, cependant, le jour où Strensom revint de la plus longue absence qu'il eût encore faite. Son aspect lui révéla qu'elle avait récemment souffert une nouvelle perte. Ils se rencontrèrent alors qu'elle quittait l'église et, remettant à plus tard son entrée, Strensom lui proposa de faire demi-tour afin de l'accompagner. Elle réfléchit puis dit « Non, entrez maintenant à l'église, mais venez me voir d'ici une demi-heure. » Il connaissait la perspective étroite de sa rue, fermée à l'une de ses extrémités, aussi lamentable d'aspect qu'une poche vide, bordée de sordides petites maisons à demi séparées, quoique indissolublement unies, qui faisaient penser à des couples d'époux mal assortis. Si souvent qu'il fût allé jusqu'à l'entrée, il n'avait jamais été plus loin. La tante était morte, cela Strensom l'avait immédiatement deviné. Il devinait aussi que cela faisait une différence, mais quand pour la première fois elle eut mentionné le numéro de sa maison, il se trouva, en la quittant, bouleversé par cette soudaine libéralité. Elle n'était pas, après tout, de ces personnes avec lesquelles les relations vont très vite. Il avait fallu à Strensom des mois et des mois pour apprendre son nom, des années et des années pour apprendre son adresse. Si à cette dernière rencontre, elle lui avait paru tellement vieillie, comment donc lui semblait-il à elle ? Elle avait atteint cette période de la vie, depuis longtemps franchie par Strensom, où la figure de l'ami rencontré par hasard après une séparation, Marc, cadran expressif, l'heure que nous avons tâché d'oublier. Il n'aurait pu exprimer ce qu'il attendait quand, le délai expiré, il tourna le coin où, durant des années, il s'était arrêté. Ne pas s'arrêter était en soi-même une cause d'émotion suffisante. C'était en quelque sorte un événement, au cours de leur amitié, aucun événement ne s'était jamais produit. L'importance en devint plus grande quand, 5 minutes plus tard, dans le cadre élégant et discret de son petit salon, elle balbutia un accueil qui montrait quelques proportions cet événement prenait pour elle aussi. Il avait l'étrange impression d'être venu pour quelque chose de particulier. Impression étrange, car au sens littéral du mot, il n'y avait rien de particulier entre eux. Rien, si ce n'est qu'ils sentaient un même intérêt régir leur vie, ce qui, depuis longtemps déjà, était devenu pour eux une admirable certitude. Cependant, après qu'elle eût dit « Vous pourrez toujours venir désormais », cette chose qu'attendait Strensom, qui était sa raison d'être là, lui sembla déjà accomplie. Il lui demanda si la mort de sa tante était la cause de ce changement. Ce à quoi elle répliqua « Elle n'a jamais su que je vous connaissais. Je désirais qu'elle l'ignorât. » Le magnifique rayonnement de sa candeur, sa beauté fanée était semblable à un crépuscule d'été, séparait ces mots de toute idée d'hypocrisie. Ils auraient pu le frapper comme la preuve d'une profonde dissimulation, mais toujours elle lui avait donné l'impression d'agir selon des raisons nobles et élevées. La tante disparue était présente, tandis qu'il regardait autour de lui, dans les petits détails raffinés de la pièce, velours perlé, damas cannelé, et bien qu'il eût, comme nous le savons, une grande vénération pour les morts, il se surprit à ne pas regretter vraiment cette dame. Si elle n'avait pas place sur sa longue liste à lui, elle avait place toutefois sur la courte liste de sa nièce. Et bientôt Strensom émit cette remarque que désormais elle aurait au moins, à l'église qu'ils fréquentaient tous deux, une nouvelle raison à sa dévotion. « Oui, j'en aurais une autre. » Elle était très bonne pour moi. C'est là ce qui fait la différence. Réfléchissant longuement, avant de faire le moindre geste de se retirer, Stransom jugea que la différence serait très grande et consisterait en bien d'autres choses. Cette idée le glaça plutôt, car ils avaient été heureux ensemble, tels qu'ils étaient auparavant. En tout cas, il avait obtenu d'elle l'assurance qu'elle jouirait dorénavant de moyens moins restreints. La petite fortune de sa tante lui revenait, de sorte qu'elle pourrait désormais dépenser pour elle seule ce qui jadis avait dû suffire pour deux. Ceci causa à Stransom une joie, car il lui avait été, jusqu'ici, également impossible de lui offrir des cadeaux et de réfréner aisément son désir de générosité. C'était trop laid, cette façon de vivre à ses côtés, dans l'abondance, sans qu'il lui fût possible d'adonner sa pauvreté à elle, largesse qui eût été manifestement une fausse note. L'amélioration de sa situation semblait seulement affirmer, en un sens, la solitude de son amour. Ainsi, de plus en plus, il vivrait exclusivement pour leur culte étroit. Et cela, au moment même où Stransom commençait à sentir que, l'ayant établi, il se pourrait que, lassé, il l'abandonnât. Après être restée un moment dans ce petit salon terne, elle se leva. « Ceci n'est pas mon coin, passons dans ma chambre. » Ils n'eurent qu'à traverser l'étroit hall pour se trouver transportés dans une atmosphère toute différente. Quand il eut refermé la porte de la première pièce, il se sentit en pleine possession d'elle. L'endroit avait l'éclat de la vie. Il était expressif. Ses murs rouges sombres s'animaient de souvenirs et de reliques. C'étaient des choses très simples, photographies et aquarelles, fragments d'écriture encadrés, fantômes de fleurs embaumées. Mais un instant suffit pour révéler à Stransom qu'ils avaient tous une commune signification. C'est là qu'elle avait vécu et travaillé, et déjà elle lui avait dit qu'elle ne changerait en rien le cadre de sa vie. Stransom déchiffrait dans ces objets qui l'entouraient leur rapport vis-à-vis d'elle, et l'allusion générale aux lieux et aux époques. Au bout d'une minute, il distingua le petit portrait d'un monsieur. À distance et sans verre, ses yeux furent attirés par cet objet, au point qu'il ressentit une vague curiosité. Bientôt, cette impression le fit s'approcher. L'instant d'après, ses yeux se fixaient sur le portrait en pleine stupéfaction, avec la sensation d'avoir laissé échapper un son quelconque. Il eut ensuite conscience de laisser voir à sa compagne une face blême, en se tournant vers elle, haletant. « Acton Egg ?» Sa surprise égala celle de Stransom. « Vous le connaissez ?» Il fut l'ami de toute ma jeunesse et de ma première maturité, et vous aussi, vous le connaissez ? Elle rougit et tarda un moment à répondre. Son regard embrassa le cadre de la pièce. Une étrange ironie lui monta aux lèvres, tandis qu'elle répétait « Je le connaissais ?» Alors, Stransom comprit. Tandis que la chambre lui semblait osciller comme une cabine de navire, que les meubles, les objets, tout criait la présence d'Acton Egg, que c'était là un musée en son honneur, que toutes ces dernières années lui avaient été consacrées, que la chasse que lui, Stransom, avait édifiée, elle, dans sa passion, l'avait consacrée au culte d'Acton Egg. Pour Acton Egg, seule, elle s'était agenouillée chaque jour devant son autel. Qu'était-il besoin d'un cierge pour lui quand il était présent dans l'ensemble et le détail de cet autel ? Cette révélation souffleta si violemment notre ami qu'il se laissa tomber sur un cierge et demeura sans parler. Il l'avait vite sentie secouée, elle aussi, par la force de son choc, mais comme elle s'effondrait sur le sofa à côté de lui et posait la main sur son bras, il comprit presque instantanément que peut-être elle ne pouvait pas ressentir ce choc aussi intensément qu'elle l'eût désiré. Chapitre 7. Il connut en cet instant deux choses. L'une, qu'en si longtemps elle n'avait perçu aucun écho de sa grande intimité ni de sa grande querelle. L'autre, qu'en dépit de cette ignorance, assez étrangement, elle imaginait aussitôt une raison à sa stupeur. « Combien extraordinaire !» s'exclama-t-il soudain. « que nous n'ayons jamais su. » Elle eut un pâle sourire qui sembla à Strensom plus étrange que le fait en lui-même. « Je n'ai jamais, jamais parlé de lui. » Il parcourut la chambre du regard. « Pourquoi alors, si votre vie était si pleine de lui ? » « Est-ce que je pourrais aussi bien vous poser cette même question ? Votre vie aussi n'a-t-elle pas été pleine de lui ?» N'importe qui, n'importe quelle vie ayant eu la merveilleuse expérience de l'approcher, de le connaître. Après un instant, Strensom ajouta. Je n'ai jamais parlé de lui, car il m'avait causé, il y a quelques années, un tort inoubliable. Elle se taisait, et de ne pas l'entendre émettre quelques protestations dans cette atmosphère que dominait la présence d'Acton Hague fit tressaillir Strensom. Elle acceptait ce qu'il venait de dire. Il tourna son regard vers elle pour voir de quelle façon elle acceptait ces mots. Les larmes montaient à ses yeux. Une étrange douceur était empreinte dans le geste que fit sa main tendue pour saisir celle de Strensom. Jamais il n'avait connu chose plus merveilleuse que de voir, là, dans cette petite pièce, chapelle de souvenirs et de culte, de voir cette femme lui laisser deviner avec cette exquise douceur que, de la part d'Acton Hague, toute injure était incroyable. Le tic-tac de la pendule résonnait dans le silence. Hague, sans doute, la lui avait offerte. Et, tout en lui laissant garder sa main dans les siennes, l'ami semblait assumer la responsabilité de sa douleur ancienne, aussi bien que de sa souffrance actuelle. Strensom s'exclama. « Dieu, comme il a dû vous traiter !» À ces mots, elle lâcha sa main, se leva et, traversant la pièce, alla remettre droit un petit tableau qu'il avait légèrement déplacé en l'examinant. Puis, se tournant vers lui, elle déclara avec sa pâle gaieté, à peine recouvrée, « Je lui ai pardonné. »« Je sais ce que vous avez fait, » dit Strensom. « Je sais ce que vous avez fait pendant des années. » Ils se regardèrent un moment à travers tout ce passé, lisant dans les yeux l'un de l'autre leur longue communauté de servitude. Ce regard fut au sentiment de Strensom une longue confession, une confession rigoureuse et complète de la femme qui se tenait là devant lui, rougissante. Elle parut comprendre ce qu'il y lisait. Il se leva. « Combien vous avez dû l'aimer !» gémit-il. « Les femmes ne sont point comme les hommes. Elles peuvent aider même ceux par qui elles ont souffert. »« Les femmes sont admirables, » dit Strensom, « mais je vous assure que, moi aussi, je lui ai pardonné. » »« Si je m'étais douté de cette étrange histoire, je ne vous aurais pas amené ici. » »« De sorte que nous eussions pu continuer à vivre dans l'ignorance jusqu'à la fin ?»« Qu'entendez-vous par la fin ?» demanda-t-elle, toujours souriante. À cela, il ne put que répondre avec un sourire. « Vous verrez quand cela arrivera. » Elle réfléchit. « Ceci vaut mieux peut-être, mais tel que nous étions auparavant, nous étions bien. » Il demanda. « Ne lui est-il jamais arrivé de parler de moi ?» Réfléchissant plus profondément encore, elle ne répondit pas. Il comprit que la seule réponse adéquate qu'elle eût pu faire à cette question eût été de lui demander combien souvent lui-même avait parlé de leur redoutable ami. Un éclair de gaieté parut soudain sur ses traits, et l'excitation de son esprit se révéla en cet appel. « Vous lui avez pardonné ? Comment cela pourrais-je m'attarder ici ?» Elle tressaillit visiblement, sous la profonde, quoique involontaire ironie de cette phrase, mais au même instant elle interrogeait, haletante. Alors, parmi les lumières de votre hôtel, il n'y en a jamais eu pour Acton Hague. Elle le dévisagea. l'air abattu. Mais s'il est un de vos morts ? Il est un des morts de ce monde, si vous voulez, l'un de vos morts, mais il n'est pas l'un des miens. Mes morts sont ceux qui moururent en possession de moi-même et en ma possession. Ils sont miens dans la mort, car ils furent miens dans la vie. Mais lui fut l'un des vôtres durant sa vie, même s'il cessa de l'être pour un temps. Si vous lui avez pardonné, vous êtes revenu à lui. Ceux qu'une fois nous avons aimés sont ceux qui peuvent nous blesser le plus profondément, interrompit Stransom. Ah, ce n'est pas vrai, vous ne lui avez point pardonné, gémit-elle avec un accent de détresse qui frappa Stransom. Il la regarda comme jamais il ne l'avait encore regardée. Qu'est-ce qu'il vous a fait ? Tout. Puis brusquement, elle lui tendit la main. Adieu. Il se sentit aussi transi que le soir où il avait lu la mort de cet homme. Vous voulez dire que nous ne nous rencontrerons plus jamais ? Plus jamais dans les conditions où nous nous sommes rencontrés. Plus là-bas. Il demeurait consterné de la rupture de ce lien puissant qui les enchaînait l'un à l'autre. Consterné de ce renoncement qui résonnait avec fracas dans les mots qu'elle venait de prononcer. Mais qu'y a-t-il de changé pour vous ? Elle attendit. L'acuité du trouble où il la voyait pour la première fois la rendait rigide et splendide. Comment pourriez-vous comprendre maintenant, quand vous ne compreniez pas auparavant ?
Je ne comprenais pas avant seulement parce que je ne savais pas. Maintenant que je sais, je vois avec quoi j'ai vécu durant de longues années, répondit doucement Stransom.
Elle le regarda d'un air reconnaissant, rendant justice à cette douceur. Après vous avoir révélé tant de ma vie, comment vous demander de partager ce passé et de vivre avec cette idée ?
J'ai édifié mon autel avec ses significations multiples, commença Stransom.
Mais elle l'interrompit vivement. Vous avez édifié votre autel, et quand j'en sentais le plus le besoin, je l'ai trouvé dans sa splendeur. Je m'en suis servi avec la reconnaissance que je vous ai toujours montrée, car je savais depuis longtemps qu'il était consacré à la mort. Je vous ai dit, il y a longtemps déjà, que mes morts n'étaient pas nombreux. Les vôtres l'étaient. Mais ce que vous aviez fait pour eux n'était pas trop pour mon culte unique. Vous aviez mis une flamme pour chacun d'eux. Ces flammes, je les ai toutes réunies pour le culte d'un seul.
Nous avions simplement des intentions différentes, répliqua-t-il. Cela, comme vous le dites, je le sais parfaitement et je ne vois pas pourquoi votre intention ne pourrait continuer à vous soutenir.
Cela vient de ce que vous êtes généreux. Vous pouvez, vous savez, vous faire une idée et réfléchir, mais le charme est rompu.
Bien qu'il se refusât à admettre cette évidence, il semblait bien aussi au pauvre Stransom que le charme était rompu. Et l'avenir s'étendait devant lui en une perspective grise et déserte. Il ne put dire toutefois que ceci. « J'espère que vous essayerez cependant avant de renoncer. »
Si j'avais su que vous l'eussiez jamais connu, j'aurais pris pour un fait acquis qu'il avait son cierge, répondit-elle. Ce qui est changé, vous le dites, c'est qu'en faisant cette découverte, je vois qu'il n'en a jamais eu. C'est là ce qui explique mon attitude.
Elle s'arrêta un instant, réfléchissant comment la qualifier et dit simplement
« Tout à fait fausse ».
« Revenez une fois encore, supplia-t-il. Lui donnerez-vous son cierge ? Demanda-t-elle. Il hésita un moment, non qu'il doutât de son sentiment, mais ce qu'il allait dire sonnerait peu agréablement dans le silence.
« Je ne puis faire cela, déclara-t-il enfin.
Alors, adieu. » Et elle lui tendit la main à nouveau. On le congédiait. D'ailleurs, dans le tumulte de ce qui s'était révélé à lui, il sentit la nécessité de se remettre. Cela ne lui était possible que dans la solitude. Pourtant, il demeura, s'attardant pour voir si elle ne trouverait point quelque compromis, quelque atténuation à proposer.
il rencontra seulement ses grands yeux éplorés, dans lesquels il eut une peine égale à la sienne. C'est pourquoi il dit « Quoi qu'il en soit, je puis au moins vous voir ici. » « Oh oui, venez si vous voulez, mais je ne crois pas que cela soit une solution. » Il embrassa la pièce d'un dernier coup d'œil. Il savait que lui aussi était bien peu sûr que ce fût là une solution. Il se sentit frappé. Il avait de plus en plus froid et ce froid l'envahissait comme un frisson de fièvre. Il lui fallait faire un effort pour ne pas trembler. Et, d'une voix plaintive, « Il faut que j'essaie de mon côté, si vous ne pouvez point le faire du vôtre. » Elle l'accompagna jusqu'au vestibule. Sur le seuil, Stransom lui posa la question dont la réponse semblait à son esprit la plus difficile à trouver. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais laissé venir auparavant ?»« Parce que ma tante vous aurait vu et il m'aurait fallu lui expliquer comment je vous avais connu. » Et quelle objection y aurait-il eu à cela? Cela eût entraîné d'autres explications. De toute façon, je risquais cet ennui-là. Sûrement, elle savait que vous alliez à l'église tous les jours, insista Stransom. Elle ne savait pas pour qui j'y allais. Alors elle n'a jamais entendu parler de moi. Vous allez me croire hypocrite, dissimulée, mais je n'ai pas eu à l'être. Stransom se trouvait maintenant sur la dernière marche, son hôtesse refermée à demi la porte ouverte derrière lui. Dans la porte entrouverte, il voyait son visage encadré. Il fit un appel suprême. « Que vous a-t-il fait ?» Cela eût été révélé, elle vous l'aurait dit. C'était là la terreur de mon cœur, c'était là ma raison. Et elle referma la porte, le laissant dehors, seul.